Alors, ce matin, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Et vous allez voir, c'est dans tous les sens, bonne et mauvaise. La bonne, pour certains, c'est que c'est le dernier message de la série. Donc, c'est la 12e session qu'on entame aujourd'hui. Alors, il y en a pour qui c'est une bonne nouvelle. Ah, ouf, on arrête. Et j'ai entendu ce matin, ah, vivement qu'on reprenne la série sur Netflix. Non, on ne fait pas de série Netflix, mais il y a une série qui s'appelle « Mieux qu'une série Netflix » et c'est sur le livre des Actes. Et donc, celle-là qu'on va reprendre la semaine prochaine, en fait. Et donc, j'ai hâte aussi de reprendre celle-là, mais il fallait qu'on termine aujourd'hui. Et vous allez voir qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle aussi dans le message d'aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs l'un des objectifs, c'est découvrir les conséquences de l'Évangile et de son refus. Et vous allez voir que c'est des textes qu'on n'aime pas prêcher, nous les prédicateurs. On aime bien annoncer la bonne nouvelle, hein, c'est ça les évangéliques, les évangélistes, ils annoncent la bonne nouvelle. Sauf qu'il y a aussi la conséquence du refus de la bonne nouvelle. Et ce matin, ça va en faire partie. Donc je préfère amortir un petit peu le choc, parce que vous allez voir, les paroles sont un peu difficiles, mais elles sont dans la Bible, c'est pas moi qui les ai inventées, on ne va faire que lire le manuel, qui est la même chose qu'il y a dans vos Bibles. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste, je sais pas où j'ai mis ma télécommande, elle est là, juste vous raconter un peu mon week-end. En fait, on a eu des amis qui sont venus de Dijon, à partir du vendredi, hein, c'était férié en France, je sais que, pas Genève, désolé, le 1er mai, c'est la fête du travail, et donc on a des travailleurs qui chômaient, ils ne savaient pas quoi faire, ils se sont dit « allez, on vient chez vous », donc ils sont venus pour le week-end, et ils sont venus avec des vélos. Donc mon ami avait son vélo électrique, et moi j'avais mon vélo musculaire. Et comme je voulais lui faire découvrir un peu la région, je me suis dit « waouh, ça serait génial si on faisait le col de Cou ». Vous voyez, donc c'est un col qui est assez connu ici dans la région, en tout cas pour ceux qui font de la moto ou du vélo, parce que c'est un col, honnêtement, ça grimpe. Voilà un petit peu la pente, 7 km de souffrance. Ça va de 4% jusqu'à 11%, il y a des portions à 11%. Et donc, me voilà embarqué dans ce parcours. Moi qui voulais lui faire découvrir, j'ai découvert ce qu'étaient des muscles. Ou ceux que je n'avais pas. J'ai souffert. C'était horrible. J'ai dû faire plusieurs pauses. J'ai failli abandonner. Mais je suis arrivé quand même jusqu'au bout. Et vous savez ce qui m'a permis d'arriver jusqu'au bout? C'est pas une chose. C'est quatre choses. Déjà, la première, c'est que j'avais mon ami qui était devant moi. Quand on a un vélo électrique, ça va un petit peu plus facile pour avancer. Mais le fait d'avoir quelqu'un devant, d'avoir un modèle, ça, on dit, tiens, lui, il y est arrivé. Et ça nous motive pour avancer. Okay? Donc ça, c'est une des raisons. Mais c'est pas la seule. En fait, je savais que 7 kilomètres après... Donc j'avais 7 kilomètres de souffrance et qu'après ces 7 kilomètres, la souffrance allait s'arrêter, vous voyez. Et donc je me suis dit, ok, c'est un mauvais moment à passer, tu vas souffrir. Alors, c'est pas parce qu'on se le dit qu'il n'y a pas de souffrance, hein, mais ça m'a aidé à me remotiver. Parce que à chaque fois que je m'arrêtais, je disais, ok, allez, plus que 4 kilomètres. Et puis après, plus que... 3 km 8, plus que 3 km 6, non, peut-être pas tous les 200 mètres, mais à chaque fois que je faisais une pause, je regardais combien il reste. Ah, plus que 2 km, allez, motivé. Et puis, il y a une autre raison, c'est que quand on arrivait en haut, il y a une récompense. Il y a une récompense. Tout en haut, il y a, au col de Cou, il y a un restaurant, et donc, ils offrent des bonnes bières, et on a pu... J'en ai pris qu'une, hein. Mais une bonne bière bien fraîche quand on a pédalé sous le soleil, quand on a transpiré. Waouh, qu'est-ce que ça fait du bien. Et une quatrième raison. La quatrième raison, c'est qu'on allait redescendre. Et ça, on allait reparcourir tout dans l'autre sens, mais plus de souffrance. Là, c'est que du plaisir, c'est de l'adrénaline, et ça, c'est la bonne carotte aussi, hein. Et puis, il y avait ce merveilleux panorama. Alors ici, on voit pas le panorama, mais on le voit là derrière nous, c'est le lac Léman, vous voyez. Et donc, on surplombe le lac, et vraiment, on voit le lac quasiment de gauche à droite, sur toute sa longueur. Donc, c'est vraiment magnifique. Et donc, vous voyez, quatre quatre choses qui m'ont permis de tenir. Pourquoi je vous raconte ma life ce matin ? Bah parce que dans le message, vous allez voir que on retrouve des similitudes avec ce texte qu'on va aborder ce matin qui s'appelle Restauration. Et on est arrivé en haut de la côte, il y avait un restaurant qui nous a offert des choses. Et c'est presque la même chose, presque. Vous allez voir, ça va beaucoup plus loin. Et donc je vous invite ce matin à prendre vos manuels, sinon à prendre vos Bibles. Et vous allez tout à la fin, c'est dans les deux derniers chapitres. Donc vous commencez par la fin, vous remontez, chapitre 21 et 22. On va lire quelques bouts de ces passages. Et donc vous pouvez les suivre ici. Ce matin, l'objectif, c'est comprendre que notre choix de croire ou non en Jésus a des conséquences éternelles. Éternelles. Et ça, c'est ce qu'il y a dans vos manuels. Donc, on va lire maintenant à partir du premier verset du chapitre 21 jusqu'au verset 8, puis après, on poursuivra. Donc, Apocalypse 21, verset 1 à 8. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. » Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toute chose nouvelle. » Il ajouta, écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. Ça, c'était la bonne nouvelle, les amis. Maintenant, la mauvaise. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. On saute jusqu'au verset 22. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau. Et là, on lit maintenant le chapitre 22, les cinq premiers versets. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide, comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois, et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau seront dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lumière, d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Et là on dit... Amen. Voilà les portions de texte que nous a préparé le livret. Et donc, on va continuer, poursuivre et essayer de répondre aux questions. Je vais pas répondre à toutes les questions parce qu'il y a des questions très personnelles, les trois dernières en particulier. Donc, on va répondre aux six premières. D'accord? Alors, première question, quelles sont les caractéristiques de ces nouveaux cieux et de cette nouvelle terre? Qu'est-ce qui vous interpelle le plus? Et vous savez, quand on imagine le ciel, dans l'imagerie populaire en tout cas, on imagine des anges, on vit sur des nuages flottants avec une harpe, vous voyez, c'est ces petits anges qui flottent comme ça. Mais vous avez vu que la Bible décrit absolument pas ça. Ça ressemble étrangement à notre terre. D'ailleurs, notre terre, ça s'appelait comment au départ? Quand Adam et Ève sont arrivés sur terre, ils étaient dans un jardin, jardin d'Éden, paradis. Paradis. Le paradis était là déjà. Alors, il s'est passé des choses où le paradis, il est un peu terni, hein. Mais Dieu avait créé un paradis. Et donc, ici, il va recréer quelque part, mais le mot qui est utilisé ici est hyper intéressant. C'est la première caractéristique, c'est pas seulement une terre qui sera différente, mais une terre renouvelée, recyclée si on veut. Le terme qui est utilisé, c'est kainos, et ça signifie nouveau dans sa qualité, rénové, transformé, et non néos, qui désigne quelque chose de totalement inédit, pardon, créé à partir de rien. Vous voyez, c'est pas une création ex nihilo. Apparemment, visiblement, c'est un recyclage. Alors, ça veut pas dire que Dieu va pas brûler, hein. Pour recycler, parfois, on est obligé de faire du ménage. On est d'accord. La terre a été polluée par l'être humain, et il continue de le faire. Mais Dieu va prendre tout ça, et on sait combien Dieu est capable de prendre le mal et d'en faire du bien. Et donc il va recycler, renouveler toute cette terre. En fait, ça a même du sens de dire ça, parce que sinon ça voudrait dire que le diable a quelque part gagné. T'as créé le paradis, ben moi j'ai tout gâché, t'es obligé d'en créer un autre. Non. Je fais ce que je veux. Si je veux, je peux reprendre mon paradis et refaire un paradis. Et je pense que c'est un petit peu ce qui va se passer. Imaginez un vieux tableau de maître, hein, un tableau qui est resté poussiéreux, un tableau qui a 5 siècles, qui est resté dans une cave et qu'on découvre. Il va être vermoulu, il va y avoir les couleurs qui vont être ternes. La crasse, c'est la poussière, c'est accumulé. Et donc, les couleurs ne sont plus vives. Parfois, la peinture a craquelé. Eh bien, ce genre de tableau, aujourd'hui, on est capable de les restaurer. Et c'est pour ça que le titre de cette leçon, c'est « Restauration ». Et une des choses que Dieu va restaurer, c'est pas seulement notre être, et il va nous ressusciter dans un corps glorieux. Alors nous, on va être recréés pour le coup. Hein, mais on va se reconnaître. Eh bien, la terre, c'est probablement la même chose qui va se passer. Il va recycler, recréer, donc reprendre ce vieux tableau tout craquelé et probablement le restaurer. Pas repartir à zéro, mais le restaurer. Deuxième chose qui va se passer, deuxième caractéristique des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, c'est que la mer n'existera plus. Si je vous dis la mer, vous pensez à des choses positives, hein. On est sur la plage avec les enfants, on fait des pâtés de sable, etc. On va pêcher des poissons. Enfin, tous ceux qui aiment la mer savent s'occuper avec la mer. Quand il n'y a plus de mer, c'est probablement autre chose. Pour un juif, la mer signifiait le chaos, les amis. Le chaos, la séparation, la peur, tous ces éléments-là sont véhiculés dans l'ancienne alliance. Quand on parle de la mer, c'est quand Jésus dit « Stop, tais-toi !» Hein, vous savez, ce texte, quand il arrête la tempête, c'est que la mer, elle représentait quelque chose, une furie qui était inarrêtable. Eh bien là, il n'y aura plus ça. Ça aura totalement disparu, plus de peur. Vous voyez, c'est pour ça que le texte précise « Il n'y aura plus de mer, plus de chaos en fait, plus de chaos. » Troisième caractéristique, la nouvelle Jérusalem descend du ciel comme une mariée. Et là, on se dit, waouh, c'est quoi ça? Ça nous rappelle ce que dit Paul en Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'est l'Église? On est l'épouse de Christ. Et ça vient depuis l'ancienne alliance. Quelle est la première chose que Dieu fait avec Adam? Il lui donne une femme, et alors qu'ils ne sont que deux, il fait cette promesse, l'homme quittera son père et sa mère. Il n'y avait pas de parents, hein. C'était les deux premiers. Mais il crée cette alliance. L'homme quittera son père et sa mère et les deux deviendront une seule chair. Et voyez, à partir de là, on se dit, tiens, c'est marrant. Sauf que l'apôtre Paul en Éphésiens 5 reprend exactement ce verset-là pour parler de l'Église. C'est mystérieux, mais c'est cette Église-là, c'est bien celle qui vient d'en haut, la Nouvelle Jérusalem, elle va descendre. Et donc nous aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est se préparer. On se prépare aux noces de l'agneau. Ici, c'est un champ de préparation, l'Église. On se prépare pour... On est en train de repasser la robe, on enlève les taches. Vous voyez, on est vraiment en train de préparer les noces de l'agneau jusqu'au moment où on va consommer notre mariage avec Jésus. Mais ça, ce sera dans ce moment-là glorieux. Et donc, on va descendre du ciel et on va pouvoir célébrer enfin les noces avec notre Dieu. Et vous savez que qu'est-ce qui a permis à Jésus d'aller jusqu'à la croix? Probablement cette perspective-là. Regardez Hébreux 12, verset 2. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les. Hébreux 12, verset 2, il dit qu'en vue de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix. Et si on refait un parallèle avec Jean 17, 24, où il dit « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi ». Et il nous préparait une place. Il parlait encore des fiançailles et du mariage juste avant. Et effectivement, c'est pas simplement le salut qui a permis à Jésus l'accomplissement de sa mission, évidemment. Mais ça, c'est pas forcément une joie. Il allait mourir et souffrir horriblement. Mais c'est la perspective des noces de l'agneau. Vous voyez, ça, c'était probablement une des motivations. Comme moi, avec le fait d'arriver au sommet et de me dire « Waouh, j'ai une bonne bière qui m'attend !» Voyez, alors c'est autre chose, hein, la mariée qui descend du ciel. Mais c'est un petit peu ce parallèle qu'on pourrait faire. Il va souffrir, j'ai souffert. Et pourquoi? Pourquoi il a tenu jusqu'à la croix? Parce qu'il avait cette perspective glorieuse, qu'il allait voir sa fiancée, son épouse, descendre et pouvoir consommer son mariage avec elle. Ça, c'est merveilleux. Quatrième caractéristique des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, c'est que Dieu va habiter avec nous, parmi nous. Aujourd'hui, on a reçu les arts de l'esprit. Pas les arts en un seul mot, hein. Les plus loin, arts. Un acompte quelque part. On a reçu 5%, allez, 7%, peut-être 10%. Peu importe. On recevra 100% parce qu'on sera face à face avec lui. Vous voyez, aujourd'hui, on goûte quelque part aux prémices du ciel, mais on le goûte que partiellement. Et dans l'Église, vous l'avez observé, c'est merveilleux les relations fraternelles. Mais il y a encore le péché. On a encore nos limites. On est encore en train de prier au ciel. Ce sera plus la peine de prier pour nos bobos, les amis. On priera plus pour les naissances, ni pour la souffrance. C'est pour ça qu'on peut le faire maintenant, profitons-en. Au ciel, on fera plus ça. Ce sera une activité qui va disparaître. En fait, ici, dans le texte, si vous regardez bien, on reprend exactement les mêmes mots que dans Ézéchiel 37, 27. Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. C'est ce qu'on dit dans notre texte, mais c'est ce qu'il y a dans Ézéchiel 37. Donc une citation entière et donc qui montre que Dieu, il accomplit ce qu'il avait promis des siècles avant, des siècles auparavant. Et donc c'est plus Dieu qui manifestera sa présence dans un tabernacle au milieu d'un peuple qui pêche, ce n'est plus Dieu qui sera derrière le voile du temple, mais c'est Dieu lui-même qu'on verra face à face. On pourra être en communion parfaite et permanente avec Jésus. C'est pas extraordinaire ça? Quand vous êtes dans votre chambre ou que vous êtes entre frères et sœurs, que vous priez, on ferme les yeux et on s'imagine. Mais là, on pourra ouvrir les yeux et se dire « Waouh, j'ai pas besoin de me toucher, il est là !» Jésus est là. Ce sera génial. Une des choses dont la plupart de ceux qui souffrent parmi nous connaissent par cœur. Je suis sûr que vous connaissez ce texte par cœur, même si vous n'avez pas lu toute la Bible. Vous vous souvenez du verset 4? Il n'y aura plus Allez, dites-le-moi. Plus de larmes. Plus la mort. Plus le deuil. Plus de douleur. Fini tout ça. Savoir qu'une fois franchi la ligne d'arrivée, il n'y aura plus jamais de larmes. Plus ces choses, mes amis. Ça va être extraordinaire. Là, je reprends l'image de mon VTT. Le fait de savoir que mon agonie allait avoir une fin m'a donné la force de continuer. Alors attention, j'ai continué à souffrir. Hein. La souffrance s'est pas évaporée. Mais j'avais la force de continuer parce que je savais que ça allait finir cette agonie-là. Et c'est ça qui nous donne cette force. C'est ça qui a donné la force à Jésus. De fait de savoir qu'il n'allait plus avoir de souffrance, les amis. Ça va être extraordinaire. Extraordinaire. Pas de temple dans la ville. Plus de temple, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Il nous l'avait déjà annoncé, si vous vous souvenez, dans Jean 2, pendant les noces de Cana. Vous vous souvenez ce texte qu'on avait abordé dans la série? Et qu'est-ce qu'il avait dit, Jésus? Il avait annoncé que c'était son temple. Alors, c'était juste après les noces de Cana, je suis en train de faire une confusion là. C'était quand il a chassé les vendeurs du temple. Hein, il disait que c'était lui le temple. Il l'affirme. Et il comprenait pas. Ben là, regardez, on a la réponse. Il est le temple, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus lieu, on n'aura plus besoin d'un lieu parce que ce sera le lieu, en fait. Jésus et Dieu est le temple. Et on sera dans sa présence. Le temple, hein, si vous devez retenir quelque chose, le temple, ça manifeste la présence de Dieu. C'est ça uniquement. Le jardin d'Éden était déjà un temple. Pourquoi? Parce que Dieu était au milieu de son peuple. Le jardin d'Éden était un temple. Et l'église est un temple. Vous savez ça? C'est une des métaphores de l'église. Nous sommes un temple. Pourquoi? Parce que Jésus est au milieu de nous. Est-ce que vous le croyez que Jésus est au milieu de nous? Si vous le croyez, alors c'est pas parce que vous le croyez qu'il est là, hein, attention. Mais Dieu manifeste sa présence au milieu de son peuple. Parce que non seulement il est au milieu de nous, mais il est en nous, par la nouvelle naissance. Et donc on est en connexion permanente avec lui. Eh bien là, on sera totalement dans sa présence, une communion parfaite. Il n'y aura plus besoin de temple parce que c'est Jésus qui sera là. La gloire de Dieu comme seule lumière. Et là, c'est marrant parce qu'il dit qu'il n'y aura plus de lampe dans le texte. Et moi, j'avais compris lampadaire. C'est vrai, la nuit, dans nos villes, on met des lampadaires pour y voir. Ben là, il n'y aura plus besoin. Il n'y aura plus... Déjà, les saisons, vous avez remarqué, il y aura 12 récoltes, une par mois. Waouh! Ça, c'est de la production, Michel, hein, tu peux t'accrocher avec ton engrais. Hein. Là, une par mois. Génial. Et donc, plus de lumière, parce qu'elle sera là en permanence. Donc, non, plus de ténèbres, pardon, pas plus de lumière. Il y aura plus de lampadaires, mais il y aura une lumière permanente. Et ce sera la présence de Dieu. C'est lui-même qui va nous éclairer. C'est lui le grand lampadaire, le grand soleil. Il n'y aura plus de lune, il n'y aura plus ces étoiles au ciel. Il y aura d'autres choses aussi extraordinaires, mais il n'y aura plus ça en tout cas. Le fleuve d'eau de la vie est l'arbre de vie. Et là, on aura un fleuve limpide, comme du cristal, qui va sortir du trône de Dieu. Et au milieu se trouve l'arbre de vie qui porte 12 récoltes et des feuilles pour la guérison des nations. Me demandez pas les détails, c'est assez énigmatique pour moi. Pourquoi la guérison des nations dans le ciel? Pourquoi la guérison alors qu'on est au ciel et qu'il n'y aura plus de douleur, vous voyez? Est-ce que c'est en souvenir de... Je sais pas, honnêtement, c'est une question que je poserai au Seigneur là-haut. En tout cas, c'est le jardin d'Éden ici qui revient. C'est exactement la même chose qu'on voit dans le récit de la création, Genèse 1 et 2. C'est exactement la même chose. Il y a l'arbre dont Adam et Ève ont été chassés après la chute. Mais maintenant, l'arbre de vie va être accessible à tous. Vous vous rappelez pourquoi Dieu avait chassé? L'homme était devenu pécheur, par nature. S'il avait mangé du fruit de l'arbre de vie, pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais l'arbre de vie, s'il avait mangé de ce fruit-là, il serait resté éternellement dans cette condition. Donc pécheur pour l'éternité, Dieu l'en empêche. Quelque part, c'est une grâce. Il nous prive de quelque chose qui allait nous enfermer pour l'éternité dans une condition. Et là, par contre, on change de condition, on est dans le ciel et maintenant, il nous permet de manger de l'arbre de vie qui va nous permettre de vivre éternellement. C'est long l'éternité, les amis, hein ? Surtout au début. Je dis ça parce que souvent on dit surtout vers la fin, mais c'est la même chose hein, pour l'éternité, le début ou la fin. Alors, trois dernières caractéristiques, il n'y aura plus de malédiction. Et vous vous souvenez, en Genèse 3, les malédictions, elles ont frappé fort. Elles ont frappé la terre, elles ont frappé le travail, la souffrance, il y a eu la mort. Tout ça, les amis, ça va être aboli pour toujours. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'au ciel, on pourra travailler joyeusement, sans transpirer, plus de déodorant, sans se faire mal au dos, plus de ceinture abdominale, sans subir de harcèlement, sans devoir négocier notre salaire. Il n'y aura que des gens contents de travailler. Plus de croque-mort, plus de pompes funèbres. Juan, tu vas être obligé de faire une formation pour faire autre chose. Il n'y aura plus jamais de grève. Il n'y aura plus de syndicat, Mika. Michael, hein, c'est parce que lui, il est syndicaliste. Plus de syndicaliste, plus de comité pour défendre les ouvriers. Les patrons n'exploiteront plus leurs employés. Il n'y aura plus d'actionnaires vampires pour pomper les bénéfices de l'entreprise. Il n'y aura plus de collègues grincheux ou toxiques, plus d'arrêts maladie, plus de chômage, plus de CDD. Alléluia ! Ça sera le ciel, les amis. Plus de malédiction. Waouh. Ah non, il en restait un. On va voir son visage. Ça, c'est probablement le sommet. Vous vous rappelez que dans l'ancienne alliance, Exode 33 disait « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et rester en vie. » Aujourd'hui, pas maintenant, mais quand on sera au ciel avec Jésus, on pourra le regarder face à face. On ne craindra plus la menace de la mort. Parce que si on voyait Dieu en face, on mourrait instantanément. À cause de notre péché. On ne peut pas supporter Dieu lorsqu'on est pécheur. Sauf que là, le péché aura été jugé. On aura un nouveau corps, des nouveaux yeux. Tous ceux qui ont des lunettes, plus de lunettes, j'avais oublié ça. Les lentilles, plus de lentilles. On pourra le voir comme ça, face à face, les yeux dans les yeux. Waouh! Et Jésus en chair là, parce que quand il est mort et ressuscité, il est monté au ciel. Son corps n'a pas été vaporisé. Non, il sera présent, on pourra le voir. Ce sera extraordinaire les amis. Waouh. Ça vous a mis l'eau à la bouche là. Hein ? J'espère en tout cas, parce que c'est ce qui nous attend et c'est ce qui va nous permettre de tenir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Gardez cette perspective les amis. Gardez cette perspective du ciel. Quand vous êtes au travail, quand vous galérez, quand vous êtes à l'hôpital, quand vous faites votre traitement de chimio, souvenez-vous de tout ça. Parce que c'est ça qui va vous permettre de tenir. Le VTT, on s'en fiche, hein. Ça, c'est votre vie qui compte. Quand vous êtes face à votre collègue grincheux, là, à un voisin qui vous fait des crasses, c'est là où il faut se souvenir. Attends. Là, c'était mon voisin, t'es dans une maison, mais là-haut, j'ai une autre maison, on sera carrément mieux. Et j'aurai plus de voisins grincheux. Allez, on répond à la deuxième question. Quels sont les deux groupes de personnes mentionnées et quel est leur sort final ? Qu'est-ce que promet Jésus à ceux qui ont soif de boire ? Premier groupe. Eh bien, c'est nous, j'espère, vous. Racheter, c'est ce que nous sommes en fait. On ne valait pas grand-chose, mais Dieu nous a rachetés à un grand prix. Et en fait, le texte nous décrit comme ceux qui ont soif et qui viennent vers lui. On s'approche de lui, on reconnaît. Quand on a soif, les amis, c'est qu'on a un besoin. Dieu ne donne pas son salut à ceux qui n'ont pas soif. Si tu ne veux pas de Dieu, il ne te forcera pas à boire. Mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Donc je bois. Il parle des vainqueurs. Les vainqueurs, c'est ceux qui auront persévéré dans la foi. Vous voyez pas une foi qu'on a pendant un temps et puis un jour elle s'arrête. Ouais, c'était sympa le IG, puis bon, ben maintenant je suis passé à autre chose, quoi. Tu vois, j'ai un peu plus d'argent, je peux plus bouger, j'ai mon petit confort. Non. Le ciel, et le lieu là, avec lequel on sera avec Jésus, c'est pas cela. Hein. C'est ceux qui auront persévéré dans la foi jusqu'au bout. C'est ça les vainqueurs. Jusqu'au bout, tu vas galérer. Jusqu'au bout, tu vas lutter contre ton péché. Jusqu'au bout, on va lutter contre la maladie. Jusqu'à la mort. Mais on va lutter. Voyez. Donc c'est pas les meilleurs qui vont arriver. Hein. C'est ceux qui vont persévérer dans leur foi. Et le texte dit, c'est ceux qui sont, au verset 27, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Et c'est ça le plus important, c'est que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Et donc ce sont tous ces gens, les serviteurs de Dieu, qui vont lui rendre un culte. Ça, c'est les rachetés. Ce matin, on a rendu un culte à Dieu, on lui rend, on lui redonne. Parce qu'on bénéficie tellement de sa grâce. Donc on la redonne à un moment donné. Les serviteurs de Dieu qui lui rendent, ceux qui verront son visage et régneront éternellement. Voilà qui ça concerne, ce premier groupe. Et quel est le sort final des rachetés? Eh bien, c'est une communion éternelle avec Dieu, dans la joie, dans la lumière, dans la plénitude. Et on va hériter de toute bénédiction dans les lieux célestes, les amis. Toute bénédiction, c'est extraordinaire. Ça va durer l'éternité des bénédictions, hein. Ça va être très très long, il y en aura beaucoup, beaucoup, plein qu'on ignore pour le moment, mais on a l'éternité pour les découvrir. Donc ça, c'est génial. Dieu va être notre Dieu et nous serons ses enfants. Vous voyez, il n'y aura plus d'ambiguïté. Aujourd'hui, on peut confondre. Le bon grain et l'ivraie sont mélangés. Des fois, il y a des faux frères parmi nous. Vous allez le voir tout à l'heure quand on va prendre la Sainte Cène. On va lire un texte. Voilà. Au milieu des croyants, il y a des non-croyants. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui ne croient pas encore. Ou qui croyaient croire, mais Dieu ne croit pas en vous. Souvenez-vous de cette leçon. C'était juste Luc 15. Ou non, après. Bref. Donc vous voyez là, le sort final des rachetés, c'est quand même sympa. Par contre, dans le deuxième groupe, et on les a identifiés comme ceux qui ont rejeté Dieu. Alors là, c'est pas la même. Et qui sont ces gens? Ben, c'est les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés sexuels, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs. En fait, toutes les catégories de péchés sont représentées ici. C'est les pécheurs, comme vous et moi, tout simplement. Ici, il faut pas voir que des meurtriers dans la liste, hein. C'est pas que des grands criminels. Des lâches. Je suis un lâche. Je ne veux pas dire « vous êtes un lâche ». Mais les lâches, c'est quoi? Eh bien, c'est ceux qui, sous la pression, ont renié leur foi ou refusé de confesser le Christ. C'est ça les lâches ici. Mais vous avez vu le deuxième terme? Les incrédules. On se dit « tiens, c'est pas un péché ça, j'ai rien fait de mal, j'ai simplement pas cru ». Ouais. Sauf que c'est ce péché-là qui te condamne pour l'éternité. Qu'est-ce qui nous sauve, les amis? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'était le verset de la semaine dernière. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la
foi.
Ok, on est sauvés par la foi. Comment on perd le salut? En fait, comment on a perdu le salut? Parce qu'on est tous perdus, vous voyez? On ne peut pas perdre le salut. Parce que c'est la grâce qui nous l'offre. Seulement, on l'a perdu au départ parce qu'on ne faisait plus confiance à Dieu. Quand Adam et Ève ont désobéi, ils n'ont plus fait confiance à leur Créateur. C'est comme ça qu'ils ont perdu la connexion avec Dieu. Et comment on retrouve cette connexion avec Dieu? Simplement dans l'autre sens, en faisant confiance à Dieu. En prenant le cadeau qu'il nous offre. On ne peut rien faire d'autre. T'es condamné, maintenant tu peux plus rien, t'es comme ce brigand sur la croix, tu peux pas faire d'œuvre. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah tu crois, tout simplement. T'es ce brigand cloué sur la croix à côté de Jésus. Tu ne peux pas faire d'œuvre, mais tu pourras être au ciel avec lui. En faisant quoi? En faisant confiance à Dieu. Souviens-toi de moi lorsque tu descendras, hein, lorsque tu viendras dans ton règne. Waouh! Ça, c'est de la foi, les amis. Et c'est ce qu'il dit ici, les incrédules n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et c'est quoi le sort final? Alors là, c'est terrible. L'étang ardent de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Ouh, ça donne pas trop envie d'y aller. Hein. Je sais pas si vous êtes déjà baigné dans un bain de braise. Vous avez mis les doigts sur une braise déjà une fois? Personne n'est tombé dans un feu. C'est bizarre. Sur de la lave? Un étang ardent. Ça me fait penser à, vous savez, des films où il y a des volcans, puis il y a une lave qui coule orange, là, vous voyez, c'est un peu ça, hein. L'étang ardent de feu, c'est un truc assez chaud, hein. Ça donne pas trop envie d'aller surfer dessus, entre nous. Probablement qu'il y a du symbolisme derrière. Mais si on prend tous les textes qui décrivent l'enfer, hein, ce lieu, justement, cet étang ardent de feu, ça donne vraiment pas du tout envie d'y aller. Le ver va ronger tout le temps. On parle d'un ver qui ronge, hein, grincement des dents. C'est pas très agréable. Quand on grince des dents, les amis, c'est qu'on a mal, vraiment mal, et que ça dure, ça ronge de l'intérieur, vous voyez. C'est comme ça que nous décrit la Bible l'enfer, en fait. C'est pas un lieu où on a envie d'aller. Et c'est pourtant ce qui est réservé à ces gens-là. Ça, c'était la mauvaise nouvelle. Je sais que ça dérange. Ça vous heurte peut-être. Mais c'est parce ça c'est parce qu'il y a une croyance populaire qui pense que Dieu est bon. Mais oui, Dieu est bon, les amis, mais il n'est pas que bon. Il est aussi juste. Vous voyez, Dieu est bon et juste. Et donc, avec ces deux attributs-là, il faut qu'il y ait sa justice qui soit assouvie à un moment donné. Et il l'assouvit à la croix. Mais on doit maintenir en tension ces deux aspects, en fait, la bonté et la justice de Dieu. Parce que si on ne le fait pas, on n'est plus avec le Dieu de la Bible, on est avec un Père Noël, vous voyez? Eh bien non, Dieu, à la fin, ne va pas dire « Oh, même si tu n'as pas été sage, même si tu as été incrédule, c'est pas grave, rentre dans mon royaume. » Ce serait pas du tout logique, ça n'a pas de sens, en fait, de dire ça. L'enfer a un sens, les amis, et il a du sens pour moi. Dans le ciel, il n'y aura que des hommes qui auront choisi d'aimer Jésus, de suivre Jésus. Il n'y aura que des rachetés par grâce. D'accord? Personne ne pourra accéder à Dieu sans avoir choisi, en fait. Il y a vraiment un choix à faire. Par contre, ceux qui auront refusé de suivre Jésus, eh bien, ils ne seront pas avec lui. Et c'est logique. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si Dieu imposait le paradis à tous, il imposerait sa présence à des gens qui ne veulent pas de lui. Et il nous imposerait à nous la présence de gens qui détestent Jésus ou qui détestent même les chrétiens. Moi, j'appelle pas ça le paradis, j'appelle ça l'enfer. Et vous voyez, quand on veut imposer le paradis à tout le monde, les amis, c'est pas logique. C'est pas du tout logique. Par contre, Dieu va rétribuer, et ça, toutes nos souffrances, toutes les injustices que nous avons vécues, on sait qu'au ciel, il y aura un jugement qui aura lieu. Voyez, et ça doit vous rassurer. Parce que sur cette terre, on va encore subir des injustices, même en tant que chrétien. On va continuer de se faire arnaquer, on va continuer à perdre des procès, on va continuer à se faire écrabouiller, en fait, à être ces martyrs, mais au ciel, il y aura une rétribution. Et ça, c'est tellement rassurant pour nous. Alors, il y a quand même une belle promesse ici, et c'est au verset 6. « À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. » Vous voyez, la condition pour obtenir ce ciel, en fait, avec Jésus, c'est d'avoir soif. Est-ce que tu reconnais ton besoin de Dieu ? On va dire que Dieu, c'est le ver, c'est la source de la vie, l'eau, c'est la vie. Hein. Si vous buvez pas pendant 48 heures, vos reins s'arrêtent de fonctionner. À la 72e heure, vous êtes mort. Donc n'essayez pas de jeûner 40 jours et 40 nuits sans boire ni manger comme Jésus. C'est la mort assurée. D'accord ? Donc l'eau, c'est la vie. Si tu reconnais pas ta soif, t'auras pas la vie. La mort est assurée. Mais vous voyez, avoir soif, c'est reconnaître son besoin de Dieu. Reconnaître que je peux pas avoir cette eau pure, que je suis pas capable de fournir la vie, en fait. On a besoin. Et donc Dieu, il offre quoi ? Il offre l'eau, la source de la vie à celui qui a reconnaît son besoin. C'est ça, en fait. Et Dieu nous vous pose la question ce matin. Est-ce que tu as vraiment soif de Dieu ? Ou si ça, simplement je viens à l'église parce que ouais, c'est sympa, les gens sont sympas, il y a une bonne musique, les sièges sont cool, le café est bon. En fait, tu as peut-être plein de bonnes raisons, j'ai des copains, mais c'est peut-être pas la bonne. C'est peut-être pas la bonne raison. Ceux qui ont soif, et ils l'offrent comment ? Gratuitement. Il n'y a pas besoin de payer. Quand on dit gratuit, c'est que, c'est-à-dire sans prix. Tu peux pas donner une contrepartie. D'accord ? C'est gratuit, cette eau-là, elle t'est offerte. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de négociation possible. Il n'y a pas de troc avec Dieu. Il n'y a pas d'échange. C'est un don qu'il t'offre. Un cadeau qui est offert gratuitement. Et vous savez, ça me rappelle ce texte dans Jean 4 qu'on a déjà lu avec la Samaritaine. Qu'est-ce qu'il lui avait dit à la Samaritaine ? Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Eh bien, c'est ça, en fait. On y est, là, dans le ciel. Celui qui a soif de moi, je lui donne gratuitement de cette eau. Mais il faut que tu réclames et que tu aies besoin, que tu vois ton besoin, en fait, que tu ressentes ça profondément. À la vôtre. Moi, je viens d'étancher ma soif. J'espère que vous faites la même chose avec Jésus, qu'il va étancher votre soif. Quand on sera au ciel, Dieu va combler toute notre soif, toutes nos aspirations, tous nos vides, tous nos espoirs qui ne sont pas récompensés ici-bas ou étanchés ici-bas. Eh bien, au ciel, tout va changer. On n'aura plus jamais soif. Parce qu'on sera en permanence avec la source elle-même. Et si on est au bord du ruisseau, les amis, que l'eau, elle coule en permanence, on n'a plus soif. Parce que l'eau est tout le temps là, voyez? On n'a plus besoin. Parce que on est avec la source. Et Jésus étant la source, quand on est avec Jésus, on n'a plus cette soif-là. Waouh! Troisième question. Pouvez-vous identifier toutes les résonances avec l'ensemble des textes parcourus dans ce livret ? Et là, on va faire une grande révision. On va reprendre le premier texte de la Genèse et on va aller jusqu'à l'Apocalypse pour dire, ok, dans l'Apocalypse 22, les amis, c'est la boucle. Et vous allez voir, il fait une synthèse, mais magnifique, magnifique. Première chose, la création. Au départ, on voit Dieu qui crée un ciel et une terre, hein ? Ça, c'est le premier verset de la Bible. Et qu'est-ce que fait Jésus en Apocalypse ? Il va créer lui, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc vous voyez, on a un parallèle parfait entre Genèse 1 et Apocalypse 21. L'arbre de vie dans le jardin d'Éden, j'en ai déjà parlé, et on voit encore dans Apocalypse 22, au verset 2, l'arbre de vie au milieu de la Nouvelle Jérusalem. Le fleuve qui arrosait le jardin dans l'Éden, on le voit ici, le fleuve d'eau de la vie. Vous voyez, on fait des parallèles ici entre le jardin d'Éden et la nouvelle terre et les nouveaux cieux, donc le nouveau paradis. Dieu marche avec l'homme dans le jardin. Il était en communion, hein, c'était le temple. Et donc, maintenant, on n'a plus besoin du temple parce que Dieu habite avec nous pour toujours. Dans la chute, la honte et la peur étaient devant Dieu et maintenant on va vivre sans crainte. Donc vous voyez, c'est l'écho opposé quelque part. Il y avait la malédiction sur la terre à partir de Genèse 3 et là il nous dit qu'il n'y aura plus jamais de malédiction. On a été expulsés du jardin et de l'accès à l'arbre de vie et puis on va retrouver cet accès justement à l'arbre de vie. On sera complètement restauré. La mort comme conséquence du péché, eh bien, il n'y en aura plus. il y en aura plus. Alors il y en aura plus. Il y aura quand même une seconde mort pour ceux qui n'auront pas été dans le livre de vie. Hein. Donc pour nous, non, il y aura plus de seconde mort. On va mourir là, et puis après, on sera ressuscité pour l'éternité avec Jésus. Quant aux autres, ils vont mourir, mais c'est pas le même avenir. Donc là, on vient de le voir, ça. Genèse 12, les promesses qu'il avait faites à Abraham, « Je serai ton Dieu », eh bien, ils sont pleinement accomplis ici, « Je serai son Dieu et il sera mon fils ». Donc, vous voyez, on voit ces parallèles extraordinaires. « En toi seront bénies toutes les familles de la terre », c'est ce qu'il avait dit à Abraham. Eh bien là, qu'est-ce qu'il nous dit ? « Les nations marcheront à sa lumière ». Donc oui, cette promesse qui était hypothétique pour Abraham, parce que c'était un tout petit peuple, hein, les Juifs au départ, c'était ça. Mais il y avait une bénédiction qui allait être beaucoup plus grande. Et là, elle nous dit, oui, il y aura toutes les nations qui seront dans le ciel représentées. Ésaïe 53, l'agneau qui est conduit à l'abattoir, au verset 7. Et puis ici, on voit l'agneau qui est maintenant au milieu, il est au centre de tout, en fait. Et il est le flambeau de la gloire divine. Il a porté nos souffrances et nos douleurs. Et là, il nous dit qu'il n'y aura plus jamais de souffrance et de douleur. Jérémie 31, c'est le texte qu'on avait vu, qui annonçait la nouvelle alliance. Et bien là, il nous dit la même chose, mot pour mot, « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». Donc c'est l'accomplissement parfait de ce qu'il avait annoncé quelques siècles auparavant. Luc 1 nous avait dit qu'on l'appellerait Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et bien, qu'est-ce qui se passe en Apocalypse ? On a la réalisation de ça. Dieu est avec nous pleinement, sans limite, sans condition. Et Jean 3, la nouvelle naissance. On avait vu avec Nicodème, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et bien là, on voit qu'effectivement, il y a des gens qui vont être dans le royaume de Dieu, mais c'est ceux qui seront inscrits. Donc ça, c'est la nouvelle naissance appliquée dans le ciel. C'est quand on naît de nouveau, Dieu nous inscrit dans son royaume. L'eau vive, je le passe rapidement, mais c'est aussi le parallèle avec ceux qui ont soif. Le fils prodigue, le père qui va courir vers son fils, qui l'embrasse, qui va essuyer ses larmes. Et là, on voit cette réconciliation aujourd'hui parfaite, où il n'y aura plus de larmes. Et ça va être totalement définitif, cette réconciliation est définitive. Et la résurrection, la victoire sur la mort. Et là, dans l'Apocalypse, il nous dit qu'il n'y aura plus jamais de mort. Et donc ça, c'est la garantie des prémices de ce nouveau monde. La justification, ceux qui croient sont gratuitement déclarés justes. Et là, c'est ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau. Donc ça, c'est la justification. Et Éphésiens 2, la grâce. Mort à cause de nos fautes. Toujours pareil, la mort ne sera plus. On est ressuscité et assis avec lui dans les lieux célestes dès maintenant. Hein, parce que c'est spirituellement, notre position, elle est déjà au ciel. Et là, on le vivra pleinement. Donc, vous voyez tous ces parallèles. On a retracé quasiment toute la grande histoire. Et en fait, on a ce résumé quelque part dans l'Apocalypse. Cette synthèse, cette grande synthèse qui nous dit voilà pourquoi il y avait toutes ces choses. Je vous les avais annoncées, je les ai accomplies. Complètement. Et c'est la quatrième question. Qu'est-ce que cela vous apprend sur Dieu ou sur la façon dont il conduit l'histoire ? Ben, la première chose, c'est qu'on peut dire que Dieu est fidèle. Parce que toutes ces promesses qu'il avait annoncées, elles ont été accomplies et elles s'accompliront parfaitement dans le ciel. Depuis Genèse 1 jusqu'au bout, chaque chose que Dieu a dit, il l'a fait. On peut avoir confiance. Tout ce qu'il avait dit avant, ça s'est accompli. Et donc, s'il nous dit qu'on sera au ciel avec lui, on peut lui faire confiance, il l'accomplira aussi, parce que Dieu est fidèle. Pas parce que nous, on est fidèles, mais parce que lui, il l'est. On voit que Dieu, il est souverain aussi. Il est le maître total de l'histoire ici. L'histoire, elle n'est pas cyclique. Elle n'est pas non plus absurde. Elle a une finalité. Dieu dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il n'est pas en train de réagir aux événements. Il les conduit, il les dirige. C'est lui le maître à bord. Vous voyez ? Ça doit nous rassurer. Quelles que soient les misères qu'on peut vivre ici-bas, et il y en a, Dieu reste au contrôle. Dieu est souverain. Et il ne faut pas qu'on l'oublie. Dieu est bon et juste à la fois, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure déjà. En fait, ça drive toute cette histoire. C'est pas seulement l'amour, mais l'amour et la justice. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres caractéristiques. On vient de soulever sa fidélité, sa souveraineté. Vous voyez, c'est des attributs de Dieu. Mais Dieu est bon, les amis, et juste à la fois. Et ne remettez pas en question sa bonté parce que vous souffrez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, n'oubliez pas qu'il y aura une justice à un moment donné. Le criminel ne sera pas impuni. Il y aura des conséquences à un moment donné. Il devra payer l'addition. Et l'histoire a un sens. L'histoire, c'est pas un bruit vide, elle a un dénouement. On va vivre avec Dieu pour l'éternité. Et ça doit rester notre point de mire. Quel impact ce parcours a-t-il sur votre vie? Qu'allez-vous faire de tout ce que vous avez appris? Alors ça vous regarde. Ça vous regarde, en fait. Tout ce que vous avez appris tout au long de cette série, c'est à vous de définir. Et là, quand vous serez avec les gens qui vont faire le livret, laissez-les parler, en fait. C'est plus de votre sort. Ça leur appartient. Alors moi, qu'est-ce que ça va changer dans la mienne? Moi, je me suis dit, ok, déjà, première chose, ça va changer mon rapport à la souffrance. Si les larmes, la mort et la douleur ont une date d'expiration, ah ben ça change complètement ma capacité à endurer. Paul, il écrit, hein, Romains 8, 18, « Les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. » Donc en gardant mes yeux sur ce qui m'attend, ça va me permettre de relativiser ma souffrance. Voyez ? Et c'est important. Donc à la lumière de ce qu'on vient de dire, de changer cette perspective-là. Ensuite, alors attention, c'est pas de la fuite hein, ou de la résignation, mais c'est savoir que la souffrance d'aujourd'hui n'a pas le dernier mot, les amis. Elle n'a pas le dernier mot. Changer mon rapport au bien matériel. Aïe. Mais si la véritable demeure est à venir, si on n'est que des étrangers, des voyageurs sur cette terre, ça veut dire que t'as pas besoin de bâtir ton royaume ici-bas. Je sais qu'on aimerait léguer des choses à nos enfants, c'est super. Mais notre royaume, il n'est pas de ce monde. On n'est pas censé bâtir le royaume de Dieu ici, hein, c'est là-haut le royaume de Dieu. On bâtit un royaume terrestre ici-bas, mais ce royaume terrestre, il va disparaître. Donc votre petit royaume à vous. Et je pense que ça doit changer notre perspective. Si c'est notre royaume là-haut, et que c'est lui qui nous prépare une place, vous n'avez pas besoin de la construire ici-bas, voyez. Ici, on vit. Alors oui, on va vivre dans des maisons, ne vous inquiétez pas pour ça, c'est pas ça la question. Mais si on bâtit tout là-dessus, nos priorités en fait, c'est une question de priorité. Changer mon regard sur les autres, et oui, en fait, autour de nous, on a des gens qui vont passer l'éternité, soit avec Dieu, soit sans Dieu. C'est ça la plus grande perspective. Quand on regarde les gens, c'est pas « Oh, il est gentil, il est pas gentil, il est grincheux, ok, ça c'est une chose. » Et on s'en passerait des fois. Sauf que c'est l'éternité qui est en jeu ici. Vous avez vu qu'il y a que deux destinées, hein, il y en a pas trois. Il n'y a pas une chance, une deuxième chance hein, après la mort. Il y en a qu'une. Il y a une seule mort, après quoi vient le jugement. Et donc du coup, ça devrait changer notre regard sur les gens qui sont autour de nous. Au lieu de se disputer, se dire « Ok, c'est un grincheux, mais il a besoin d'entendre l'Évangile. » D'accord ? Et là, peut-être que ça va changer dans vos relations aussi. Vous allez pas le regarder de la même manière, en tout cas pour moi. Et puis, ma façon de vivre l'Église. En fait, ici, on a un avant-poste du royaume de Dieu. On est une ambassade, quelque part. On représente le royaume d'en haut, imparfaitement. Pas éternelle. Notre Église ne sera pas éternelle. Elle ne l'est pas. Mais on est un avant-poste, un avant-goût. On est un peu l'apéro pour eux de ce qu'il va y avoir au ciel. Et donc, quand on est ensemble, ça devrait changer notre regard. Parce que tout ce qu'on fait ici, là, ça a un impact éternel. Quand on a prié tout à l'heure, ça, c'est un impact éternel, en fait. Ça peut influencer beaucoup de choses. Et là, on va prendre, dans quelques instants, la Sainte Cène pour nous rappeler justement ces choses-là, pour nous rappeler ce qu'on va faire et ce qu'on va vivre avec lui dans le ciel. Allez, dernière question, parce que c'est la plus importante finalement. Sauriez-vous quoi faire si vous vouliez répondre à l'invitation de Dieu à naître de nouveau? Qu'est-ce que vous allez répondre, vous, à vos amis? Qu'est-ce que vous leur diriez? Comment tu fais pour naître de nouveau? C'est compliqué de rentrer dans le sein de sa mère, n'est-ce pas? Comment on peut faire pour naître de nouveau? Faut reconnaître ton besoin. Reconnais ton besoin. Si t'es pas capable de reconnaître que tu peux pas te sauver tout seul, alors tu pourras jamais boire de cette eau qui rafraîchit. En fait, quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il est pécheur, qui reconnaît pas ce que Jésus a fait sur la croix, bah Dieu peut pas lui donner son verre. Dieu peut pas étancher sa soif éternelle. Il faut d'abord que tu reconnais ça. À partir du moment où tu reconnais ça, tu dois placer ta confiance. Et tu dois boire. Il faut la boire, cette eau. Et ça, c'est accepter. C'est reconnaître ce que Christ est. C'est placer ma confiance. C'est ça, boire l'eau. Vous voyez? Mais si je la bois pas, si le verre il reste posé, à un moment donné, Dieu me tend son verre. Ok, t'as soif, je te donne à boire, mais à un moment donné, il faut que je boive. Ça, c'est la foi. Donc vous voyez, le verre, il est offert, il est gratuit, c'est un cadeau que Dieu nous offre, on ne le mérite pas, on ne le mérite pas. Mais je reconnais que je ne le mérite pas, mais j'ai soif, donc donne-moi à boire. Et là, tu peux saisir ce verre d'eau et le boire. Voilà ce que tu peux faire pour naître de nouveau.